Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, do anything else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard. Ingénieur, trompettiste, traducteur, écrivain, scénariste, librettiste, journaliste, compositeur, interprète et poète. Qui sait, bien, c'est le bison ravi, ce n'est autre que Boris Vian, avec qui nous allons passer deux émissions à parler de sa vie, en tout cas de tranches de vie de lui, à dire ses textes dans le désordre, comme nous le faisons d'habitude. Et nous allons d'abord lui laisser la parole, tout simplement. Honneur à tout seigneur. Je suis snob.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, de pied, vois celui-là. Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un Nilsair, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Banal.
Il naquit, gras et rond. Souvent, riant aux anges, il s'amusait tout seul dans son léger berceau. Il fit comme chacun plus d'un petit ruisseau, comme à chacun de même on lui changea son linge. Il eut 3 ans, les cheveux longs, puis une frange. Sage le plus souvent, ce fut un jouvenceau, normal, faisant du bruit, qui poussait son cerceau, comme d'autres enfants, qui aimaient les oranges, le sucre, les bonbons, les gâteaux et les fruits, mangeait de gros beefsteaks avec grand appétit, appréciait aussi la soupe et les légumes. Il préférait aux coups les caresses, souvent, il attrapait la grippe à la suite d'un rhume. Tous les matins, il s'habillait en se levant.
J'avais demandé pour mes 14 ans une sœur de mon âge. Elle est arrivée dans un panier blanc, une rose au corsage. J'ai défait le nœud du ruban de soie qui la tenait captive et j'ai donné 10 sous au commissionnaire. Elle avait des yeux comme des balais, une bouche en forme de rémoulade, un œil de fémur, un port de jument. Elle était ravissante. J'aime beaucoup les jolies filles. Je les prends dans mes bras, je les renifle, je les touche, je les serre et je m'en serre. J'étais content d'avoir une sœur. Mais je regrettais mes 10 sous.
Boris Vian. Boris Vian est né à Ville d'Avray en 1920. Et que faisait son père? Eh bien, son père était rentier. Voilà. Donc, comme quoi la poésie ne connaît pas les classes sociales. Villon n'avait pas de père. Jean Rousselot était commissaire de police et fils d'eux. Et eh bien, la famille Vian, c'est une famille assez riche. Je crois que le grand-père avait fait fortune dans une histoire, dans une entreprise de ferronnerie du côté de Chambéry. Et puis, voilà, ils étaient rentiers, tout simplement. Et donc, ils habitaient une très très belle maison à Ville d'Avray, dans cette banlieue riche de l'Ouest parisien. Et Boris est né, je crois que c'est... Il a déjà un frère aîné qui s'appelle Lélio, c'est le deuxième d'une famille. Il va avoir après un autre frère qui s'appelle Alain, et une petite sœur également. Et c'est une vie très heureuse. Le père est quelqu'un d'assez fantasque, qui éduque ses enfants dans un esprit de liberté et, disons, hors de la norme complètement. On passe beaucoup de temps à faire de la musique, la mère joue, on fait beaucoup de parties dans le jardin, mais c'est un milieu très famille dans lequel on défend énormément. Enfin, c'est un milieu un peu refermé sur lui et beaucoup dans la protection. Et puis, donc, on va s'apercevoir, à 8 ans, le petit Boris fait une méchante angine, et on s'apercevra à 11 ans qu'il est sujet au rhumatisme articulaire, c'est-à-dire qu'il a une malformation cardiaque. Et toute son enfance, il va la passer dans cette hyperprotection, contre laquelle, d'ailleurs, il va petit à petit bâtir une forme de rejet, c'est-à-dire se cacher quand il est mal, et par contre, jouir de la vie, affirmer un esprit de fête, d'humour, de quelque chose de complètement débridé. Ça, il le fait très très tôt. Pour la petite histoire, donc quand il a 9 ans, on est donc en 1929, c'est la grande crise. Le conseiller financier de Monsieur Paul Vian, père, n'est pas très malin. Et il fait faire, enfin bon, remarquez, c'est un petit peu comparable. Enfin, il y a eu des Madoff dans toutes les époques. Donc le conseiller, l'ayant mal aiguillé, la fortune de la famille se réduit à sa plus simple expression. Et ils sont obligés de louer la maison du portier de cette immense ville. Enfin, ils sont plutôt obligés de s'installer dans la maison de portier de cette immense propriété, et de louer d'ailleurs à la famille Menouin la maison principale. Les voisins, c'est la famille de Jean Rostand. Le fils Rostand deviendra un bon copain de Boris. Et voilà, on va peut-être pas en dire plus loin. Donc simplement, on a bien prévenu que Boris Vian, c'est Vian d'une famille, tout ce qu'il y a de plus français. Boris, c'est parce que sa mère aimait beaucoup l'opéra, et Boris Godounov. Voilà, ça ne l'empêche pas d'avoir l'âme slave.
L'air slave, j'ai l'air slave, Je suis né à Ville-d'Avray, mes parents étaient bien français. Ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor.
Moi je m'appelle Igor.
Mon prénom évoque, pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite.
Ouais.
Quand on m'imagine, on voit ta ballerine qui s'apprête à boire à son samovar. L'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave. J'ai l'air slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe en moi c'est le prénom. Mais ça suffit bien. Oui, à force d'entendre
ouais.
tous les gens me prendre
ouais.
pour russe authentique,
ouais.
j'en ai tous les tics.
Yeah.
J'habite de Zakous,
ouais.
je bouffe des pioches,
ouais.
je bois de la vodka
ouais.
au milieu des repas. L'âme slave, j'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison, je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slave.
Ouais.
Quand j'avais 12 ans, on descendait tous en bande vers la pointe à Pitre. On cueillait des sapotes et des mambins sur le bord de la route jaune et les oiseaux jouaient à chat perché en criant des vieux airs créoles. La vie était en forme de dragée. Il n'y avait rien que de très doux et tout de même plein de substance. Ma nourrice me prenait dans ses bras. À 12 ans, j'étais aussi grand qu'elle, mais j'aimais encore tenir dans ma bouche la pointe ronde et noire de ses beaux seins lourds. Nous nous étendions derrière les cannes. Le vent bruissait parmi leurs feuilles longues, aiguës et poudrées de soie rêche. Ma nourrice était toujours nue, et moi, toujours déshabillée. Aussi, nous nous entendions bien. Elle avait une odeur sauvage et des dents blanches plein la figure. La terre sentait l'orbe nipellule et les fleurs de Congo brûlant nous recouvraient de leur pollen orangé. Pendant 3 saisons, j'ai eu 12 ans. Parce que j'aimais tant ma nourrice, je ne pouvais pas la quitter. Ma peau prenait des reflets bruns, brûlés au soleil de la sienne. Je la touchais avec toutes mes mains ensemble, les mains de mes yeux, celles de mon corps, et nos membres fumaient dans l'air veiné de noir. Je ne sais pas comment 2 allumettes peuvent s'en mêler, mais je sais que nous étions bien droits l'un contre l'autre comme 2 allumettes. Et au bout d'un instant, un chat n'y aurait pas retrouvé ses petits. D'ailleurs, il savait bien que ses petits n'étaient pas là.
Lycée. Il grandit sans changer beaucoup, mais sa paresse le rendrait très rapide à finir ses devoirs. C'est une solution que l'on peut concevoir. À la mathématique, il montrait un peu d'adresse. Ceci le décida. Pourquoi chercher sans cesse à cultiver tout droit la branche du savoir, où l'on paraît briller ? Il dit un au revoir aux lettres, puis tâta de l'équation traîtresse. Et ça marcha très bien. Toujours avant-dernier, il ne se frappait plus, se sachant prisonnier de l'engrenage obscur des différentiels. Il fut reçu sans mal à son bachot philo, qu'il avait préparé rechute vénielle par-dessus le marché, puis coiffa le calot.
Et ce fut le concours pour une grande école. La ruée contenue de 1000 bons crétins, vers 200 places. Se lever dans les matins lourds d'orage latent et le cœur qui s'affole. La verrière immense, houleuse casserole, où cuisent des cerveaux nageant dans leur destin, les froncements de front, les appels clandestins, les départs, en clamant une suite de rôles. Enfin, le mois d'attente inquiète et de l'heure, qui durera 10 ans mais n'a duré qu'une heure, l'oral tant espéré, piteux et solennel. L'incompréhension des copains sans entrailles, le bon cœur de bourreau barbu à l'œil cruel, et le jour du triomphe où croulent les murailles.
Voilà, les deux derniers poèmes donc de Boris Vian étaient extraits des 100 sonnets, hein, 100 comme le chiffre et sonnet comme les sonnets, les poèmes. Pour une fois, eh bien, les poèmes suivent la biographie, c'est-à-dire qu'on a là une petite série qui raconte un petit peu des souvenirs d'enfance. Hein, mais il faut savoir que ces 100 sonnets, il les écrit entre 19 et 20 ans. Donc le petit Boris est un élève extrêmement brillant, hein. Ses parents, de toute façon, l'ont nourri de toutes sortes de, enfin, lui ont donné une culture très très large qui va, voilà, il adore lire quand il est gamin, les frères Grimm, Perrault, les romans d'aventure de Stevenson, Kipling, Daniel Defoe, Mark Twain, etc., etc. Mais ses goûts sont très éclectiques. Il y a la musique aussi qui est très présente à la maison, puisque la mère est pianiste, la tante joue de la harpe, on joue du Debussy, du Ravel, etc. Ça le rase un petit peu, hein, le petit Boris, ça le rase. Mais, et surtout ce qui le rase, c'est qu'on soit toujours dans une sorte de protection, comme surtout venant de sa mère, qu'il appelle la mère Pouche. Il dit dans L'Herbe Rouge, il y a un petit passage que je voudrais vous lire, qui, à travers le personnage... De Wolf, hein, qui est son double littéraire, il dit ceci: « Ils avaient toujours peur pour moi, dit Wolf. Je ne pouvais pas me pencher aux fenêtres, je ne traversais pas la rue tout seul, il suffisait qu'il y ait un peu de vent pour qu'on mette ma peau de bique, et hiver comme été, je ne quittais pas mon gilet en laine. Ma santé, c'était effrayant. Jusqu'à 15 ans, je n'ai pas eu le droit de boire autre chose que de l'eau bouillie. À force, je finissais par avoir peur moi-même, par me dire que j'étais très fragile, et j'étais presque content de me promener en hiver en transpirant dans 12 cache-nez de laine. Pendant toute mon enfance, mon père et ma mère ont pris sur eux de m'épargner tout ce qui pouvait me heurter. » Et un peu plus loin, il dit, ou en tout cas pas plus loin, mais dans un autre texte, il dit: « Un jour que j'avais rencontré des jeunes gens qui, dans la rue, se promenaient leur imperméable sur le bras, tandis que je suais dans un gros paletot d'hiver, j'en eus honte. En me regardant dans la glace, j'ai vu un balourd engoncé, ficelé et chapeauté comme une larve de hanneton. Deux jours plus tard, comme il pleuvait, j'ai retiré ma veste et je suis sorti. Je prenais mon temps pour que ma mère ait le loisir d'essayer de me retenir, mais j'avais dit « je vais sortir » et j'ai dû le faire. Et malgré cette peur de m'enrhumer qui me gâchait la joie d'avoir vaincu ma honte, je suis sorti parce que j'avais honte d'avoir peur de m'enrhumer. » Voilà, donc il va tout le temps se battre contre cette espèce de crainte permanente qui l'entoure et qui entoure sa maladie de cœur. Et il va développer une espèce d'esprit de fête en réaction à cette espèce d'hyperprotection. Ça va se traduire d'ailleurs par l'organisation, au début, de très innocentes surprise parties, mais il monte avec ses frères un orchestre de jazz, et c'est le jazz qui devient sa passion. Il commence à jouer de la trompette. Évidemment, tous les médecins lui disent surtout pas la trompette, parce que voilà, pression artérielle, etc. Lui, il s'en fiche complètement, et ça va être, il va être parti là sur l'orbite qu'il va suivre pendant toute sa vie de grand fêtard, musicien, inventeur. Donc on l'a bien compris. Il se présente à l'école centrale après un bachot. Et pourquoi ? Parce qu'il dit « la littérature, c'est la liberté. Si j'écris, je veux écrire librement et il faut que j'ai un bon métier pour gagner ma croûte. » Ce qui n'est pas si bête. Miles, un autre grand trompettiste. Thank you.
Le pick-up graillonnait un blues mélancolique. L'air était alourdi de poussière et d'odeur. Quelques azous dansaient, tenant contre leur cœur les filles courtes aux derrières spasmodiques. Dans un placard, un couple amateur d'obstétrique se livrait à des jeux pleins d'art et de candeur. Un autre, dans un coin, tentait avec ardeur l'accouplement des amygdales, en musique. Des mains se rencontraient sous des jupes trop courtes. Ivre, deux tourtereaux, si je disais deux tourtes, cherchaient partout un lit. Les lits étaient tous pleins. Laisser se bézouiller cette jeunesse heureuse, pourquoi les extirper de cet impur purin si leur espoir se borne à frotter des muqueuses?
Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale. Ça sera par un soir horrible, clair, chaud, parfumé, sensuel. Je mourrai d'un pourrissement de certaines cellules peu connues. Je mourrai d'une jambe arrachée par un rat géant, jaillie d'un trou géant. Je mourrai de sang coupure, le ciel sera tombé sur moi. Ça se brise comme une vitre lourde. Je mourrai d'un éclat de voix crevant mes oreilles. Je mourrai de blessures sourdes, infligées à 2 heures du matin par des tueurs indécis et chauves. Je mourrai sans m'apercevoir que je meurs. Je mourrai enseveli sous les ruines sèches de 1000 mètres de coton écroulé. Je mourrais noyé dans l'huile de vidange, foulé aux pieds par des bêtes indifférentes et juste après, par des bêtes différentes. Je mourrais nu ou vêtu de toile rouge ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. Je mourrais peut-être sans m'en faire du vernis à ongles aux doigts de pied. Et des larmes plein les mains. Et des larmes plein les mains. Je mourrais qu'on décollera mes paupières sous un soleil enragé, qu'on me dira lentement des méchancetés à l'oreille. Je mourrais de voir torturer des enfants et des hommes étonnés et blêmes. Je mourrais rangé vivant par des vers. Je mourrais les mains attachées sous une cascade. Je mourrais brûlé dans un incendie triste. Je mourrais un peu, beaucoup, sans passion, mais avec intérêt. Et puis, quand tout sera fini, je mourrai.
Boris Vian, un poète à vie brève. C'était ce texte « Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale », cet extrait de « Je voudrais pas crever », un titre emblématique. Et tout au long de sa vie, Boris Vian sait qu'il est promis à une vie très brève. Et puis voilà qu'arrive après les années, enfin en cours des années de formation, voici qu'arrive la guerre. La guerre est, qui est quelque chose de très étranger. Comme il le dira plus tard, il est complètement naïf en ce qui concerne toutes les questions politiques, mais en tout cas, la guerre a une incidence immédiate sur son parcours d'étudiant, c'est que l'école centrale est déplacée à Angoulême avec l'invasion allemande, et il va se retrouver donc à Angoulême avec ses copains pendant 2 ou 3 ans dans une espèce de vie complètement hors du temps, hein, uniquement obsédé par la rencontre des filles, puisque c'est une préoccupation tout à fait normale à cet âge-là. Et puis c'est l'époque aussi où se développe par une sorte de dandisme d'opposition le mouvement Zazou, d'ailleurs, dont il ne se sent pas spécialement proche, hein, il le dit, il épingle les Zazous dans plusieurs de ses poèmes parce qu'il écrit déjà des poèmes tout en étant ingénieur à Centrale, il écrit ses poèmes. Il va rencontrer aussi une personne qui va compter beaucoup dans sa vie, c'est celui qu'il appelle Major, dont j'ai oublié le nom.
Jacques Loustalot.
Jacques Loustalot, voilà, Jacques Loustalot, qui est une sorte, qui est son cadet, hein, puisqu'il a, je crois, 4 ou 5 ans de moins que lui, qui est un enfant un petit peu perdu entre des parents divorcés, en tout cas très suicidaire et qui va d'ailleurs lui inspirer des personnages, parce que Boris Vian va garder ce trait tout au long de son écriture, c'est de mettre ses amis dans le cœur de ses poésies, de ses romans. Donc Jacques Loustalot va devenir major, qu'on retrouve dans plusieurs, je crois qu'on le retrouve dans L'écume des jours, major, en tout cas, et ça va être une amitié très très forte, pas seulement, c'est une amitié, on pourrait dire, générationnelle, puisque, bon, il commence à avoir des petites aventures, le jeune Boris, mais surtout avec celle qui va devenir sa femme, Michel Léglise, qui est d'une famille riche et protestante. Ça va former une sorte de trio d'amis absolument indéfectible, et la mort de Major plus tard va être un coup terrible pour lui. Alors je voulais lire un tout petit bout, mais je ne le trouve plus, qui concerne cette espèce de naïveté politique qu'il avait. Ben, je tombe sur un bout sur le Major, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faudrait dire. En tout cas, si, voilà, j'y suis. Mon ignorance de la chose politique, pardon, a perduré à un point inimaginable jusqu'à 30 ans au moins. J'avais vraiment trop de choses à faire, centrales, la trompette, les filles, pour m'occuper de tout ça. Je me rappelle seulement la terreur mêlée de respect technique que j'avais eue à Cap-Breton en voyant défiler des éléments blindés teutons gris tellement motorisés et la fanfare sous ce casque qui fait la tête de mort. Voilà. Donc il y a cette présence extrêmement impressionnante de l'armée allemande, et puis il va y avoir quand même les aînés qui meurent, parce qu'il y a quelques aînés de famille amis qui vont disparaître dans la guerre, et c'est seulement après la guerre que Boris Vian va développer ce qui est devenu pourtant un trait qu'on pense complètement inhérent à lui, qui est cet antimilitarisme, ce refus de la bêtise cléricale, mais surtout des militaires, quoi. Et comme il le dira toujours, je ne suis pas antimilitariste, je suis pro-civique. Voilà, donc il rencontre Michel, et on va peut-être laisser un petit suspens sur cette affaire, parce que les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal en général. Par contre, les histoires du monde sont parfois difficiles. Et voilà ce que pense le jeune Boris de ce qui se passe dans les années 40 en France.
Il casse le monde. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal, ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi, il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière, et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang. Je l'aime. Je l'aime, la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalit, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent retrouver la vie du monde et retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête et je suis fière. Je l'aime, ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Ah, oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseau peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez, mon cœur.
À vous, messers les profiteurs de guerre, les mercantistes, les vilains trafiquants, les fabricants de gâteaux à la terre, voleurs, pillards, tous effrontés croquants, j'aimerais voir au col de lourds carcans. Craignez qu'un jour le peuple vous punisse. Allez, feignez des regrets convaincants, et priant Dieu que la guerre finisse, priez Satan que dure 105 ans. Grâce truande, aux traits laids de manière, qui remplaçait par des bijoux clinquants le bel esprit des dames de naguère, vous connaîtrez des piques les piquants. Recouvrez-les, ces corps lourds et choquants, de laine fine et de douce pélisse. Imprégnez-les de parfums suffocants. Mais prions Dieu que la guerre finisse. Priez Satan que dure 105 ans. Mourrez de faim, nos enfants et nos mères, roulés sur l'or, tavernier fabricant de torboyaux à Saint-Louis le Vert, tombés, blessés, infirmes, claudiquants, tombés toujours. Nul emploi n'est vacant pour l'innocent que dégouste le vice. Et vous, volez, volez en vous moquant, mais priant Dieu que la guerre finisse, priez Satan que dure 105 ans. Prince, vous êtes riche en escroquant, mais j'attendrai longtemps l'heure propice pour vous crever ce ventre provoquant. Donc, priant Dieu que la guerre finisse, priez Satan que dure 105 ans.
J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozeau, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé les chaises, réparé les billets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en cadillac dans les rues de Paris depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, 3 domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateur pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foudront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous nos ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car quand ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie, je vais sans souci au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde, canon en solde.
Le petit commerce Boris Vian, donc on pourrait être étonné d'entendre voilà ce Vian très antimilitariste et grinçant, alors que voilà, comme on le disait un petit peu avant, c'est une chose qui va venir tardivement. Juste avant, on entendait la ballade des marchés obscurs. On peut se demander si c'est Boris Vian ou Boris Villon qui a écrit ça, mais si on sait que c'est un texte qui a été écrit quand Vian avait à peine 19 ou 20 ans, on se rendra compte à quel point il est déjà imprégné de ces grands classiques de poésie. Voilà. Donc, la fin de la guerre arrive. Boris est reçu, donc ingénieur à l'école centrale, et va se passer à ce moment-là un épisode tout à fait dramatique dans sa famille, puisque son père, Paul, est assassiné dans les mois qui suivent la libération. On ne sait pas trop, c'est une affaire assez obscure, parce que, bon, évidemment, la libération, c'est aussi un moment de grande pagaille sociale. Il y a toutes sortes de malfrats qui profitent, évidemment, de la pagaille de ce moment-là, et donc visant certainement les quartiers riches. Tout à l'heure, on disait, Marc nous disait, Meudon, Ville d'Avray, et quelle est la troisième, Sèvres. Voilà, c'est un petit peu le triangle, c'est le triangle des Russes blancs, en fait, hein, de toute, donc on peut dire aussi, on le sait, c'est aussi une banlieue assez riche, quoi, une banlieue assez bourgeoise, et donc on peut se dire que tous les voyous visent aussi ce coin-là en se disant qu'il y a des... Vise toujours. Non, il y a de bonnes affaires à faire dans le coin.
Je pense aux poubelles surtout, qui sont merveilleuses dans cette région.
Ah, il faut, alors invitons nos auditeurs allaient faire un tour dans les poubelles de Ville d'Avray et de Sèvres. En tout cas, bon, ce qui est terrible, c'est que le père Paul est tué par des gens qui s'introduisent dans la maison un soir et qui tirent sur lui parce qu'ils se sentent menacés. Voilà. Donc, Boris se retrouve, en fait, alors qu'il n'est pas l'aîné, il se retrouve dans la situation de responsable de famille. C'est son père qui en a décidé ainsi dans son legs testamentaire. Et Boris va essayer de noyer aussi cette tristesse dans cette grande fête que devient le Saint-Germain de l'après-guerre. Donc évidemment, il fait partie du Jazz Club de France. Il a même pris, je crois, position contre Hugues Panassier et pour Delaunay du côté des novateurs, parce que voilà, il défend un nouveau jazz. C'est un fan de Duke Ellington. On ne le sait pas assez, mais c'est Boris Vian quand même, pour les amateurs de jazz de Clapas, qui a été le chauffeur de Duke Ellington dans Paris, mais aussi de Louis Armstrong. À chaque fois qu'une grande vedette, ou en tout cas un des grands noms, une de ces grandes personnes qu'il admirait énormément, venait à Paris, Boris Vian devenait son chauffeur personnel. Il était prêt à tout faire, au point d'ailleurs de conserver, je crois, très pieusement comme une relique chez lui, une cravate que Duke Ellington avait eu probablement la gentillesse d'oublier.
Dans l'écume des jours, l'héroïne qui s'appelle Chloé est un titre de Duke Ellington qui est sans cesse rappelé.
Oui, et puis il y a aussi, toujours dans l'écume des jours, cette invention magnifique du piano cocktail, c'est-à-dire d'un piano qui fabrique des cocktails, qui est certainement une sorte de synthèse de ce qu'on cherchait à consommer dans le Saint-Germain de l'après-guerre. En tout cas, Boris a rencontré Michel Léglise, qui va devenir sa femme aussi, et ça c'est quelque chose de très important. Ils sont très jeunes, évidemment, c'est des amours presque, on dirait, encore adolescentes, mais très très vite ils vont avoir un enfant. Voilà, et ils essayent de naviguer dans cette de faune très étrange, quoi, dans laquelle navigue aussi le couple Sartre-Beauvoir, Juliette Gréco, enfin toutes sortes de personnes.
Paul Nizan.
Paul Nizan aussi. Comment s'appelle-t-il l'autre, celui qui va devenir d'ailleurs l'amant de Beauvoir, cet écrivain américain aussi. Enfin, peu importe.
Nelson Algren.
Enfin, tout ça forme un petit milieu qui se connaît bien. D'ailleurs, Beauvoir parle de Vian, qu'elle trouve assez antipathique au début parce qu'il a ce côté très réservé. Il est toujours en train de cultiver un peu l'art du paradoxe, et plus jeune il est, plus il le cultive. Après, il va s'adoucir un petit peu, mais c'est une forme de défense dans cette timidité de ce géant aux yeux très très clairs, qui fait 1m85 et qui sidère tout le monde par sa gentillesse et surtout par l'énergie avec laquelle il joue. Voilà, on va peut-être faire un petit salut aux Azous par le biais de Brigitte Fontaine, qu'on écoute maintenant.
Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les Azous, c'est les Azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les Azous, voilà les Azous. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous Azous comme nous, car le Azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un Azou, c'est un Azou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est Azou, elle est Azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis Azou, je suis Azou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société devant payer sa dette.
Devant la guillotine, Jajani dit je m'en fous.
Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête.
Je suis Azou, je suis Azou.
Avec une mondaine de la place Pigalle.
Mon ami Léon a fait les 400 coups.
Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles.
Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azou dans mon quartier.
Moi je suis déjà à moitié.
Et à mon tour un de ces jours,
on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Azou on s'y retrouvera.
Car c'est fou ce qu'on rigolera.
Quand sur les douches on chantera comme ça.
Un jour, il y aura autre chose que le jour. Une chose plus franche, que l'on appellera le jodel. Une encore, translucide comme l'arc-en-son, que l'on s'enchassera dans l'œil d'un geste élégant. Il y aura l'oraille, plus cruelle, le volutin, plus dégagé, le comble, moins sempiternel, le baouf, toujours enneigé. Il y aura le chalamondre, l'ivrunini, le baroïque, et tout un planté d'analogne. Les heures seront différentes, pas pareilles, sans résultat. Inutile de fixer maintenant le détail précis de tout ça. Une certitude subsiste. Un jour, il y aura autre chose que le jour.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à queue nue, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins stos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de celle que ceci, que cela, la belle que voilà mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs, tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non, monsieur, non, madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Thank you.
Voilà, c'est donc l'orchestre de Boris Vian qu'on entendait interpréter Sweet and Bebop. Bon, c'est du jazz approximatif, mais c'est du jazz joyeux. Hein, ce sont une bande de jeunes gens de 20 ans. Et voilà, Boris met tout son cœur à souffler dans cette trompette. Alors, il va, en même temps, donc il est, comme on l'a dit au début, c'est un trompettiste, écrivain, traducteur, ingénieur, etc., etc. Donc, il écrit en même temps. Il a déjà écrit un premier roman qui s'appelle « Vers Coquin et le Plancton ». Qu'il a d'ailleurs présenté tout de suite à Gallimard, parce qu'il y va direct. Hein. Et là, ça tapait dans l'œil d'un certain Raymond Queneau, qui fait partie des grands lecteurs de Gallimard. Et donc Queneau l'encourage, Queneau même lui fait signer un contrat pour Vers Coquin et le Plancton. Et puis, dans la lancée, Boris Vian écrit, on est donc en 1946, hein, il écrit L'écume des jours. Il écrit ça, je crois, en 3 ou 4 mois. Il écrit toute L'écume des jours, ce roman qui est devenu emblématique de presque toute son œuvre. Et là aussi, Queneau est complètement subjugué. Il se dit qu'il y a là un très grand écrivain qui vient de naître. Et Queneau dit à Vian, écoute mon vieux, on va tout faire pour que tu aies le prix de la Pléiade. C'est un prix qui est donné par Gallimard à la Libération. Et alors donc, il y a dans le jury qui préside à ce prix, il y a des gens très prestigieux. Il y a Sartre, Camus, Éluard, Malraux, Arlan, Joé Bousquet, Pollan, Queneau, Blanchot, Grenier et Roland Thual. Et Queneau est absolument certain de son poulain, comme on pourrait dire. Et puis voilà qu'on met en concurrence avec Boris Vian Jean Grosjean, qui est donc un poète qui est un ancien curé des Froquets d'ailleurs, pour un texte de poème religieux qui s'appelle Terre du Temps. Et alors que Vian était absolument persuadé par Queneau que tout le monde voterait pour lui, et que même certains, il y en a d'autres que j'ai pas cités, hein, donc il y a Pollan, il y a Le Marchand, et qui lui ont promis de voter pour lui, eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est Grosjean qui l'emporte. À deux voix près, je crois. Éluard, qui est quelqu'un d'assez louvoyant, il faut le dire, vote pour Henri Pichette, qui n'était pas prévu d'ailleurs, qui n'était pas en lice, simplement pour ne pas rentrer dans la bagarre. Et voici que Vian se retrouve. Alors, Vian est complètement ulcéré par ce qui lui arrive, et c'est une histoire qui va durer très longtemps. Je la raconte parce que c'est aussi de là que va naître, de cette espèce de déprime et de ce désappointement, que va naître l'histoire. Histoire de J'irai cracher sur vos tombes. Donc, pour dire, Vian se venge en écrivant un petit poète, un petit poème qui dit « Nous étions presque équipolants. Hélas, tu m'as pourfendu et cuit, Pollan. Victime des pets d'un Marcel à Relan, j'ai été battu par l'abbé Grosjean, qui m'a consolé. C'est Jacques le Marchand, mais mon chagrin, je le garde en remâchant, je pleure tout le temps. Queneau, Queneau. Sartre apprendra qu'ils m'ont dit en rigolant à ne pas écrire des poésies mystères. » Voilà. Bon, c'est presque de la poésie de potache, on peut dire. Mais Vian est ulcéré et il rencontre à ce moment-là, il rencontre un copain de copain qui tient une petite édition qui est très... qui bat de l'aile, quoi. Et ce gars lui dit, un petit peu à brûle-pourpoint, « Ah, je cherche un best-seller, il faudrait absolument que j'ai un best-seller. » Et Boris Vian lui dit, « Mais écoute, moi, je te le fais, ton best-seller. Qu'est-ce que tu veux, un polar ?» Le gars dit, « Oui, si tu veux. » Et à ce moment-là, Boris va partir donc avec sa femme Michel, à Saint-Jean-de-Luz, je crois, avec leur petit gamin qui doit avoir, le petit Patrick qui doit avoir à peine quelques mois. Et ils se retrouvent là, toujours en bande, parce que pour Boris Vian, les vacances, c'est toujours les copains aussi. Et dans la journée, il écrit, et en 15 jours, il écrit, lui qui a lu, parce qu'il dévore, hein, il a dévoré pendant toute son enfance aussi bien les grandes aventures que les polars, eh bien, il écrit en 15 jours, j'irai cracher sur vos tombes, quoi. Qui s'inspire, enfin bon, il connaît parfaitement tous les poncifs du polar. Alors, on va en lire un petit extrait, mais on peut le dire, c'est pas non plus, j'irai cracher sur vos tombes, c'est pas un chef-d'œuvre de littérature, mais c'est très cru pour l'époque. Et on peut dire d'ailleurs que peut-être il y a quelque chose dans l'esprit de Vian qui est à la fois un fond poétique extraordinaire et aussi une volonté farouche de marquer, de réussir, d'arriver par quelque chose de scandaleux à faire sa place. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on lit un petit extrait. Yves, tu veux bien nous lire un petit extrait de « J'irai cracher sur vos tombes ».
Je ne sais pas si j'avais envie d'autre chose que de la baiser à m'en rendre malade. à en croire mes réflexes. Mais je réussis à tenir. Jean est amoureuse de vous, dit Lou. Ça se voit. Je n'y peux rien. Elle était lisse et mince comme une herbe et odorante comme un magasin de parfumerie. Je m'assis et me penchai au-dessus de ses jambes et je lui embrassai l'intérieur des cuisses à l'endroit où la peau des femmes est aussi douce que les plumes d'un oiseau. Elle resserra ses jambes et puis les écarta presque aussitôt et je recommençai un peu plus haut. Son duvet brillant et bouclé me caressait la joue et doucement, je me mis à la lécher à coups légers. Son sexe était brûlant et humide, ferme sous la langue, et j'avais envie de la mordre, mais je me redressais. Elle s'assit en un sursaut et saisit ma tête pour la remettre en place. Je me dégageai à moitié. « Je ne veux pas, dis-je. Je ne veux pas tant que cette histoire avec Jean ne sera pas liquidée. Je ne peux pas vous épouser toutes les deux. » Je lui mordis les pointes des seins. Elle tenait toujours ma tête et gardait les yeux fermés. « Jean veut m'épouser, continuai-je. Pourquoi, je ne sais pas, mais si je refuse, elle s'arrangera certainement pour nous empêcher de nous voir. » Elle se taisait et se cambrait sous mes caresses. Ma main droite allait et venait le long de ses cuisses et Lou s'ouvrait à chaque attouchement précis. « Je ne vois qu'une solution, dis-je. Je peux épouser Jean et vous viendrez avec nous. » Et nous trouverons bien le moyen de nous voir.
Oui, ce petit extrait, enfin, j'apprécie l'interprétation. Moi, je dirais Jean plutôt. C'est une histoire assez étrange où Vian est coincé entre... Enfin, Vian, non, le narrateur, il faudrait dire, hein, est coincé entre deux femmes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il faut dire Jean ou Jean. Hein, mais c'est très étrange. Voilà, on va dire que ce n'est pas de la très grande littérature, on a fait beaucoup mieux dans le genre, mais en tout cas, ça va déclencher un tollé absolument extraordinaire, un scandale extraordinaire, et Vian va se retrouver propulsé tout d'un coup à la tête d'une espèce de littérature à succès. Il faut rajouter encore autre chose, c'est que très peu de temps après, va se passer un crime gare Saint-Lazare, où un type trucide de sa maîtresse, et on retrouve ouvert sur la table de nuit dans un hôtel « J'irai cracher sur vos tombes » à la page où le narrateur exécute... parce que c'est une histoire, en fait, autour d'une vengeance, je dirais, de la part d'un faux noir ou d'un black qui passe pour blanc. Chose à laquelle était extrêmement sensible Boris Vian, là, il faut le dire, à la libération. Boris Vian était choqué par la manière dont les GI parlaient des Noirs ou traitaient les Noirs dans l'armée américaine et aussi par le mépris qu'avaient la plupart des soldats américains du jazz. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient un trésor chez eux. Donc c'est en partant de ce propos, on pourrait dire de bon aloi, quoi, que Vian va écrire ce texte qui le dépasse complètement, en tout cas peut-être dans lequel son ambition l'a dépassé, et il va se retrouver donc à la tête d'un scandale absolument énorme. Ça marche très fort. Je crois qu'en quelques mois, 600 000 exemplaires du bouquin sont vendus, et tout d'un coup, il se trouve devant une machine infernale, puisque ça va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. On peut le dire dès maintenant, on le redira la prochaine fois, mais Vian est mort à la séance de projection privée de la mise au cinéma de ce film dont il ne voulait plus entendre parler, en tout cas il ne voulait même plus qu'on évoque ce titre. C'était sa disons la dent qu'il aurait fallu lui arracher peut-être.
La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher et puis ça s'égate soudain, ça vous fait mal et on y tient et on la soigne et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher. La vie.
La vraie rigolade.
Dans le métro, ça y sent mauvais. On a l'droit d'y rien faire. Défense de cracher du sang, défense de fumer des harengs, les places tamponnées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites. Par ordre de priorité. On sort, et là il faut qu'on jette les cadavres dans la corbeille. Et au Luxembourg, c'est pareil. On n'a pas le droit de brouter l'oseille. Il faut y tenir les cercueils en laisse, faut pas marcher sur les curés, et pour se reposoir la fesse, faut que la chaissière se soit tirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cracher tout le sang qu'on veut, laisser les cercueils se marrer, danguer la swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est-y pas mieux ? C'est-y pas mieux ?
s'achève cette émission consacrée à Boris Vian. Nous voulions apporter ici un titre d'Alain Bachung dont nous saluons le départ, le long départ, mais nos compagnes nous les ont jalousement cachés, nous n'avons pas pu les apporter. Cette émission était préparée par Patrick Vendrin et Yves Flanc en ma compagnie. Merci à Marc Canna et à Charo Beltran de nous avoir accompagnés. Nous saluons ici notre ami Jean-Claude César qui, sautant d'un nuage, a traversé avec fracas un arbre et s'est fait une petite fêlure. Nous espérons qu'il sera bientôt parmi nous. Cette émission est dorénavant soutenue par le Printemps des Poètes et nous vous donnons rendez-vous là dans 15 jours pour la suite de cette émission sur Boris Vian. La BIP est toujours à votre disposition pour venir dire, clamer, chuchoter des poèmes sur vos lieux de travail et de paresse. Bonne poésie à vous!